HRD Radio, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Julie Sterwen, Barthélémy Avocat, le groupe NR, l'école IGS RH, Lefèvre Dalloz et Adecco France.
Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD Radio. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise. Abonnez nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux. À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Marc Sabatier, cofondateur de Juliette Sterwen, Gérald Jasmin, directeur général d'Adecco France, et Dominique Leroux, directeur de la rédaction sociale de Lefèvre Dalloz. Bonjour messieurs.
Bonjour, Richard.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous recevons Mathilde Lecause, présidente de Le Lab RH et directrice des ressources humaines chez Mazar. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Alors, vous êtes parisienne, mais vous m'avez dit, oui, mais je suis bretonne. C'est important pour vous, ça, cette précision?
Oui, parce que de fait, je vis entre la Bretagne et Paris.
Effectivement.
Donc au-delà de que ce soit mes racines, depuis plusieurs mois, donc je teste que vivent un certain nombre de salariés. C'est-à-dire que je partage ma vie entre le Rennes où je vis, où ma famille vie et puis à Paris où je travaille.
Alors c'est quoi, c'est télétravail ou vous avez des bureaux là-bas?
Non, c'est télétravail. On a des bureaux. Après, moi, j'ai une fonction siège. Je suis très respectueuse aussi des autonomies locales. Donc, en fait, je souhaite ne pas rentrer dans le quotidien par respect par les équipes qui sont en charge de ce périmètre. Donc, c'est plutôt télétravail, mais bien sûr, je peux y aller quand je veux. Et donc, je fais à peu près 3 jours à Paris et 2 jours en Bretagne.
Ah, heureuse femme. Les RH, c'est venu très tôt avec vous, pour vous?
Moi, c'est un peu par hasard quand même. Parce que du coup, j'ai fait... Donc, je travaille chez Mazar. Je suis classique de ce que font nos collaborateurs. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait mon stage de fin d'études et j'ai été dans l'audit financier pendant un certain nombre d'années. Et je me suis réorientée en interne dans les métiers RH en faisant plein de choses différentes. Et pour être très honnête, j'étais surtout passionnée de la matière, mais c'était pas une quête en soi pour moi d'avoir le rôle de DRH. Mais je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir cette mission, parce que je trouve que c'est un très très beau métier. Donc,
ça se voit et ça s'entend. C'est intéressant, quand vous entrez chez Mazar, vous vous dites c'est pour 3-4 ans ou c'est pour une vie?
Je me dis 3-4 ans, ouais. Et ça fait 20 ans, donc comme quoi la fidélité, ça marche encore. Mais c'est vrai que, comme pour beaucoup de nos collaborateurs, on est un peu une école de la vie professionnels, on se positionne comme le premier employeur. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont arriver, mais ils vont aussi vite repartir, parce que c'est aussi notre promesse employeur, et comme ça que sont vus nos métiers, comme très formateurs, pour une période donnée. Donc moi, j'étais pareil, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, je me dis, je vais faire l'audit et je vais à trouver ma voie. Je ne m'attendais pas à ce que ma voie soit dans les ressources humaines, chez Mazar, mais effectivement, c'est qu'à chaque fois que je me suis posé des questions sur mon départ, j'ai eu des magnifiques opportunités que j'ai su saisir, et donc j'y suis encore,
Ça se comprend. Je ne vais pas vous demander ce que c'est que Mazar quand même, il ne faut pas exagérer, mais le Lab RH, qu'est-ce que c'est?
Alors, le Lab RH, c'est une association professionnelle qui a pour mission d'inspirer la fonction RH pour transformer la fonction RH et les rendre acteurs d'un futur du travail qui est plus responsable, je dirais. Donc moi aussi, je ne crois pas au bonheur, mais je crois à la responsabilité de l'employeur dans la manière de prendre des décisions et de traiter de façon responsable ses collaborateurs. Et je pense que ça contribue en tous les cas à être bien dans sa vie. Quand tout roule au travail, ça aide. Ça ne fait pas tout, mais ça aide. Et donc cette association, elle promeut notamment la transformation de la fonction RH par l'aspect technologique, pas que, mais donc on a un peu plus de 300 startups adhérentes issues toutes de la tech RH, donc sur les segments recrutement, santé mentale, développement des compétences, gouvernance participative, On va à la fois découvrir les sujets de prospective, l'IA bien évidemment, mais la blockchain, le métaverse, les NFT, quels vont être les usages dans la fonction RH. Et après, on aborde aussi tous les sujets plutôt d'innovation sociale, les sujets d'intergénérationnel, de santé mentale, de transformation managériale, de soft skills. On se positionne donc, par exemple, par rapport à la NDRH, qui est aussi une association professionnelle. Nous, notre enjeu, c'est plutôt d'explorer les futurs possibles et de prendre des prises de parole assez radicales sur la manière dont on voit le rôle de la fonction RH, sur des sujets plus d'éthique, de responsabilité. Non pas que les sujets du quotidien ne nous intéressent pas, mais si, par exemple, on prend le sujet de l'emploi des seniors, qui était un sujet beaucoup adressé ces derniers mois, bien sûr qu'on peut faire des propositions sur comment encourager les entreprises à davantage employer de seniors. Le sujet, c'est plutôt d'essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui il y a un problème. parce que le problème, il était déjà là et il ne fait que s'amplifier.
Ouais.
Et donc, le sujet, c'est pas tant aider les entreprises, peut-être par des montages de charges sociales différentes, d'encourager, voilà, mais plutôt de se dire, mais en fait, la seniorité en tant que telle, c'est une compétence, c'est important parce que c'est la mémoire des organisations et qu'en fait, ne basculons pas dans le jeunisme. Et du coup, on va plutôt sortir beaucoup d'éléments de prise de parole, d'études sur voilà, qu'est-ce que la seniorité, quelles compétences ça représente et en quoi c'est utile, surtout pour nos entreprises.
Eh bien, on va voir ça très en détail. Gérald.
Vous évoquez la seniorité d'un côté, le jeunisme d'autre côté. Vous évoquez être le premier employeur pour un candidat notamment. Comment vous managez la relation managériale intergénérationnelle ? Parce qu'on le voit dans beaucoup d'entreprises.
Complètement.
Il y a une opposition ou en tout cas un biais à trouver ou à gommer plutôt entre les jeunes et les plus anciens. Comment vous transmettez ça à vos équipes et comment vous faites pour manager ces sujets ?
Alors, c'est vrai que c'est un vrai sujet chez Mazars. Juste pour donner quelques chiffres, donc on a, rien que sur la France, dont je suis en charge, on a 5000 salariés. La moyenne d'âge est de 29 ans. Donc, en fait, les jeunes sont majoritaires dans notre organisation, mais l'entreprise est drivée et managée par les seniors. Donc, c'est la minorité générationnelle qui manage la boîte et donc qui, parfois, n'est pas représentative elle-même des gens qu'elle adresse, qui constitue notre organisation. Donc, du coup, le sujet de l'intergénérationnel a toujours été, mais il est beaucoup plus marqué aujourd'hui, parce qu'on va le voir aussi, c'est pas tant le sujet des nouvelles générations qui ont toujours été là, mais le sujet aussi d'une génération qui est née avec le numérique et qui a eu une éducation radicalement différente de ses aînés, l'éducation dite positive. Mmh. Et en fait, ça a beaucoup de conséquences aussi sur la manière de repenser la relation dans l'entreprise. Mais on n'a pas repensé la relation managériale, par exemple, qui fait que si on infantilise les gens, même quelqu'un qui a 22 ans, ça l'agace beaucoup aujourd'hui. Ça repense aussi qu'est-ce que l'autorité ? C'est plus l'accès au savoir, puisque le savoir s'est démocratisé. Donc, en fait, on essaye d'expliquer d'où viennent ces oppositions et souvent d'expliquer que c'est les aînés qui ont éduqué les jeunes générations ainsi. Donc, en fait, on peut s'énerver, mais les générations sont le fruit d'une époque et d'une éducation reçue. Une fois qu'on s'est dit ça, déjà, on embarque les aînés sur leur responsabilité individuelle et collective, sur le fait d'avoir façonné quelque part cette génération à cette image. Et surtout aussi, on explique aux nouvelles générations, c'est le fameux sujet sur la seniorité est une expérience en soi. La mémoire de vie, ce qui fait l'expérience, c'est la mémoire qu'on engendre par rapport aux différentes expériences qu'on a eues. Et quand je vois aujourd'hui toutes les transformations majeures qui sont en train d'arriver, on a besoin de savoir d'où on vient, quelle a été notre histoire et quelles sont les raisons de ces transformations successives. Les jeunes générations ne peuvent pas le savoir puisqu'ils sont nés pendant ou après. Et donc, c'est beaucoup d'accompagnement, du mentoring, du reverse mentoring pour reprojeter chacun dans un rôle différent, par exemple. C'est beaucoup de conférences d'un point de vue sociologique aussi, d'essayer de comprendre notre histoire, d'où on vient. Et en fait, on se rend compte que quand on discute, voilà, souvent on a peur de quoi ? Des gens qu'on ne comprend pas. Et en fait, aujourd'hui, on a surtout beaucoup d'incompréhension dans les fonctionnements. Mais dès lors qu'on comprend d'où ça vient, moi, je constate que le discours est beaucoup plus apaisé. Ça ne veut pas dire qu'on entraîne tout le monde dans la transformation, mais chacun est prêt à faire un pas pour se retrouver. Et c'est bien l'enjeu, c'est de ne pas opposer les générations, mais les faire travailler ensemble.
C'est beau. Marc.
Alors Mathilde, vous êtes présidente du Lab RH et j'ai compris que dans ce cadre, vous réfléchissez beaucoup au sujet de l'IA, aux opportunités qu'elle offre. Alors j'avais une double question là-dessus. La première, c'est est-ce que vous avez déjà, alors dans le cadre cette fois-ci de votre rôle de DRH chez Mazars, déjà mis en place dans la fonction RH de Mazars des services ou des process qui s'appuient sur l'IA ? Et d'autre part, par ailleurs, on sait que le métier d'auditeur financier, enfin, j'espère pas dire de bêtises, mais peut être très largement impacté pour l'IA dans son essence même. Donc comment est vécue l'arrivée de l'IA ? Alors tant en tant que expérience collaborateur que dans l'avenir du métier.
Alors c'est vrai que je représenterai pas le LabRH si moi-même je travaillais pas déjà avec beaucoup de startups qui font déjà appel à des IA dans beaucoup d'outils, sauf qu'ils sont cachés, enfin, dans le sens où le collaborateur, qu'il soit RH ou même nos collaborateurs, travaillent parfois avec des outils et qui ont déjà des IA. Donc l'IA était déjà là. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est l'IA générative, c'est-à-dire c'est l'assistante personnelle, c'est-à-dire comment chaque individu, dans sa productivité individuelle, va utiliser l'IA pour son propre confort et l'optimisation de sa propre productivité. C'est ça qui est vraiment très différent, je pense. Donc aujourd'hui, il y a eu déjà un vrai sujet d'éducation déontologique. Les IA génératives, c'est faut faire attention. Il y a la RGPD, il y a les risques de cybersécurité. Donc ça, c'est, je pense, c'est une responsabilité en tant que RH de former là-dessus, parce qu'on peut faire beaucoup de conneries quand même. Et dans nos métiers, on traite de la donnée confidentielle de nos clients, on ne peut pas se permettre ça. Donc il a fallu sécuriser les environnements où on a des IA, mais dont les données qui sont partagées ne peuvent pas sortir de notre propre architecture IT. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est déjà d'identifier les cas d'usage très concrets. Faire un PowerPoint, faire de l'analyse de données, écrire des mémos, faire de la recherche. Ça, c'est des choses qui vont pouvoir être optimisées. Encore faut-il que chaque collaborateur comprenne du coup comment utiliser. Donc, Copilot, par exemple, chez Mazars, dans l'environnement Microsoft, ça s'apprend. C'est pas des formations one-shot. Donc, en fait, on a des outils et là, on cherche des partenaires qui vont vraiment accompagner dans le day-to-day, comme prendre par la main les collaborateurs de « attention, ton réflexe est de traiter ça, pense à l'IA, elle va pouvoir t'aider à faire ça ». Et donc, c'est de l'entraînement hein, et donc il faut être très derrière. Donc, c'est des gros dispositifs de formation. Mais je pense que le sujet majeur avant ça, c'est quand même d'adresser le sujet de la finalité de la productivité. Que va-t-on faire de la productivité ? Pourquoi on le fait, en fait, l'IA ? Parce que si c'est pour recruter deux fois moins de collaborateurs à terme, ce qui pourrait être une option, hein, les collaborateurs, bien sûr, sont sur la défensive et ne vont pas être acteurs de ce changement. Par contre, moi, je crois beaucoup plus à la productivité rendue aux salariés pour un meilleur équilibre de vie. On parlait de la semaine de 4 jours, par exemple. Je sais que ça a fait beaucoup débat. Après, dans l'absolu, les gens sont en recherche de temps pour eux pour faire d'autres choses. Parfois, une autre activité professionnelle. C'est une vraie réalité aujourd'hui. Les gens ont plusieurs jobs en même temps, plusieurs activités qui les épanouissent. On ne veut pas forcément de l'oisiveté pendant 3 jours. Ça, c'est peut-être possible demain, enfin, avec justement ces outils qui permettront que l'entreprise ne voit pas une chute de sa productivité tout en donnant plus de temps. Ou alors, moi, je suis aussi convaincue de ça, c'est de redonner cette productivité dans des missions d'innovation sociale ou environnementale pour le compte de l'entreprise. Ça servira à nos enjeux en termes de CSRD et en plus, on contribuera du coup de façon responsable à un monde meilleur. Donc, et ce sujet-là, les dirigeants ont besoin de se positionner avant de mener la transformation. Donc nous, on l'a mené très clairement. Nous, c'est un sujet d'équilibre de vie. Dans nos métiers, on sait que c'est un vrai sujet parce que c'est des métiers très prenants. Et donc, on voit vraiment en l'IA une capacité à avoir beaucoup plus de marge de manœuvre pour un meilleur équilibre de vie de nos collaborateurs.
Dominique.
En votre qualité de présidente du LabRH, vous êtes à un très beau poste d'observation de la fonction RH. Justement, ces dernières années, compte tenu des transformations numériques dont on vient de parler, est-ce que vous observez une évolution ou une transformation de la fonction RH ?
Oui, quand même. Et il y a de très, très belles transformations. Ce qui est vrai, c'est que pendant très longtemps, alors moi, je le dis d'autant plus que je ne viens pas du CERAI. Donc, ce qui était un problème pour moi à première vue, je ne viens pas du droit social. Je ne suis pas juriste de formation. Moi, je viens de la finance et j'ai plutôt fait des postes de transformation technologique, data, marketing en RH, qui m'ont conduit avant d'être DRH. Et en fait, c'est surtout qu'on a besoin de plus de compétences dans la fonction. La fonction RH, elle est tellement aujourd'hui, il faut du marketing, de la com, de la data, du social, de l'architecture IT, de la data. C'est un des métiers les plus complets. Et donc, ça nécessite déjà d'avoir des équipes qui ont toutes ces compétences-là. Si on n'a qu'un certain profil, la transformation technologique va être très compliquée. Donc, il y a déjà travaillé sur les compétences clés de la fonction RH avec des gens qui ne sont pas issus du CERAI. Moi, j'ai des gens qui viennent de profils très, très différents parce que pour justement avoir toute cette galaxie de compétences. Et ensuite, on peut je pense, œuvrer à la transformation parce que penser data, moi, c'était facile venant de la finance, mais pour des gens qui n'ont pas connu ça, qui viennent plutôt des métiers du droit social, c'est plus compliqué. Et un juriste des formations professionnelles, il est adverse au risque. Donc, il faut, en fait, il n'y a pas de bon ou mauvais modèle, c'est vraiment la richesse de tout ça mélangé. Donc ça, déjà, on voit une évolution des formations et des profils même des gens qui s'orientent. Beaucoup aussi de réorientation professionnelle, énormément dans la fonction RH, parce que je pense que c'est un métier qui incarne le sens pour beaucoup de gens. C'est contribuer à s'occuper des autres. Et donc ça a beaucoup de sens. Donc on voit, je trouve, un regain de l'attractivité du métier. Moi, quand j'ai commencé un peu naïvement chez Mazars, j'étais tellement fière de dire que je faisais des RH et tout le monde me disait « Oh !» Ah bah, je sais pas toi, mais alors moi, chez moi, les RH, et donc j'ai été très choquée par l'image qu'avait la fonction RH. Et je trouve beaucoup moins aujourd'hui. Donc cette transformation, elle était moins technologique qu'en termes de posture, de mindset et de compétences. Et pour moi, c'était quand même l'entrée pour ensuite faire une transformation technologique. Aujourd'hui, il y a plein d'outils. On le voit au Lab RH, hein, beaucoup de RH qui travaillent avec des startups, en open innovation, en recherche sociale, des crédits d'impôt en innovation sociale qui commencent à se mettre en place, donc ça bouge. Maintenant, il y a encore du travail, c'est-à-dire qu'on parle d'IA, mais il faut d'abord avoir automatisé, robotisé un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'il y a des étapes préalables à l'arrivée de l'IA. Et donc, il faut avoir eu cette transformation d'abord numérique. Et c'est vrai qu'elle n'est pas encore achevée partout, donc il faut continuer. Ceux qui sont déjà matures pourront facilement adresser le sujet de l'IA. Pour d'autres, il y a des étapes, à mon sens, préalables quand même pour pouvoir l'utiliser pleinement.
Mathilde, vous êtes passionnante, formidable. Merci beaucoup. Merci également à vous, Marc, Gérald et Dominique. Fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur notre compte LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour un nouvel épisode.
L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Julie Sterwen, Barthélémy Avocat, le groupe PNR, l'école IGS RH, Lefèvre Dalloz et Adecco France.